Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonne année Thibaut.
Bonne année Apolline, bonjour à tous. La neige invitée de la rentrée, la vigilance est étendue à 23 départements. Galère ce matin sur les routes, en Bretagne et en Normandie. Nous serons sur place dans ce journal. Retour à Crans-Montana, 4 jours après l'incendie d'un bar. Toutes les victimes ont été identifiées. Bilan 40 morts, 9 sont français. Donald Trump qui menace à tout va après le Venezuela. Le président américain menace Cuba, l'Iran et le Groenland.
Attention sur les routes ce matin dans l'Ouest.
Une route blanche en raison de la neige, des premiers flocons tombés dans la nuit du côté de la Normandie et de la Bretagne. Tous les transports scolaires sont suspendus dans ces deux régions. C'est le cas du côté de Romagné en Ille-et-Vilaine. Martin Lange, vous êtes sur place en direct ce matin pour RMC.
Décision annoncée hier soir pour ce qui s'agit des transports scolaires, hein, d'abord pour l'Ille-et-Vilaine puis pour tous les départements bretons, une mesure de précaution évidemment mais qui oblige les parents à s'organiser au tout dernier moment. Grégory vient tout juste de déposer deux de ses enfants à l'école.
Je suis parti un peu plus vite, j'ai démarré le véhicule avant pour qu'il soit bien à température et faire attention aux conditions. C'est pas facile, j'ai mon grand qui est au collège, je sais que ce matin il va pas pouvoir y aller, donc il va falloir s'organiser autrement. D'accord. Donc ça change un peu les conditions pour lui. On s'adapte, on n'a pas le choix.
La neige n'a pas encore fait son apparition ici, mais le givre et le verglas sont bien présents. Ça glisse notamment sur le réseau secondaire. Les flocons, eux, sont un peu plus au nord sur la Manche. Ils sont annoncés en Bretagne en milieu de matinée, 3 à 7 cm, jusqu'à 10 sur les hauteurs. Une neige qui devrait tenir, la faute à ces températures négatives qui vont persister toute la journée. À noter aussi que la circulation des poids lourds est limitée. Ils sont notamment interdits sur toutes les routes nationales.
Martin Lange, en direct ce matin de l'Ille-et-Vilaine pour RMC, un épisode qui va se décaler dans la journée vers la région parisienne. Géraldine Demory, vous êtes restée avec nous. Géraldine, on sait que quand il neige sur l'Île-de-France, ça devient très vite compliqué. Et il se trouve que là, ça va tenir.
Et ça va tenir très rapidement puisque les sols sont très froids. Alors, on attend les premières chutes de neige vers 13-14 heures. Elles vont arriver par le nord-ouest de l'Île-de-France. Dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée, ces chutes de neige vont se renforcer et traverser toute la région. Ça se calmera en première partie de nuit. Au total, on attend 1 à 3 cm de neige dans Paris et la proche banlieue, 2 à 4 cm sur les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne. On pourrait aller jusqu'à 5 cm sur les plateaux, dans le Val d'Oise notamment. Et alors, c'est vrai que même si après minuit il ne va plus neiger, on va rester quand même en vigilance orange parce que les températures vont rester négatives et donc on va avoir du regel sur cette fine couche de neige, ce qui va rendre les sols extrêmement glissants demain matin. Ensuite, demain, on aura une journée de répit. Ça va être plutôt pas mal puisque mercredi, on aura un nouvel épisode de neige. Et enfin, le redoux qui marquera la fin de cet épisode de 15 jours de froid.
Les précisions de Géraldine Demory. Une rentrée sous la neige donc dans l'ouest, dans le froid à l'est, moins 6 degrés ce matin du côté de Dijon. C'est là que les élèves du collège Champollion vont retrouver leur salle de cours 3 semaines après l'incendie de leur établissement en lien avec le trafic de drogue. Sont concernés les élèves de la 6e à la 4e. Rentrée partielle sous haute sécurité, loin de rassurer parents et enseignants. Caroline Renaud.
C'est avec un cours de physique que Lucas fait son retour au collège. Cet élève de 5e redoutait de faire sa rentrée dans un autre établissement.
Je vais revoir mes copains. C'est mieux que d'être séparé dans des collèges différents ou qu'on connaît personne.
Son père, Mathieu, se montre moins enthousiaste car il n'a qu'une peur.
Que ça recommence, que ce qui s'est passé la nuit peut se passer le jour. Que voilà, que le feu soit propagé dans la journée. Et un jour, nos enfants ils seront dedans, quoi.
Une inquiétude qu'Isabelle Chevier, professeure d'espagnol, lit aussi dans les messages de ses collègues.
Des collègues qui ont des problèmes de sommeil, qui sentent vraiment très très mal, très fragilisés.
Elle est représentante du syndicat d'enseignants SNES-FSU.
Le fait de se retrouver devant l'immeuble qui a brûlé, ça va probablement réactiver des choses. J'ai peur qu'il y ait des collègues qui partent vraiment, vraiment en dépression. Des collègues m'ont déjà parlé d'arrêt de travail. Puisque l'année dernière, on a eu des tirs de mortier. Cette année, c'est l'incendie. Jusqu'où ça va aller, quoi?
L'enseignante alerte aussi sur l'avenir de l'établissement. On a de plus en plus d'élèves qui changent de collège, confie-t-elle.
Le narcotrafic et le crime organisé qui ont désormais un parquet dédié, le PNACO, il ouvre ses portes aujourd'hui à Paris en charge déjà de 170 dossiers. C'est dans ce contexte qu'on a appris la mort d'un homme par balle hier soir, quartier Belzunce à Marseille. Vous écoutez RMC, il est 8h05, l'identification des corps est terminée à Crans-Montana, annonce des autorités suisses. Le bilan est lourd, 40 morts tués dans l'incendie d'un bar de cette station de Suisse au soir du Nouvel An, la moitié... son mineur. Amine Lafchin, vous êtes sur place ce matin pour RMC. Parmi ces victimes, Omeline, 9 Français.
Oui, et parmi ces Français, 3 sont mineurs. Le plus jeune n'a que 14 ans. Les deux autres sont âgés de 15 et 17 ans. Parmi les victimes qui ont péri dans l'incident, il y a aussi un jeune homme de 20 ans, une femme de 33 ans et une jeune Toulousaine de 26 ans, partie fêter la nouvelle année dans le bar Le Constellation le soir du drame. On sait aussi que deux d'entre eux y travaillaient. Il y a d'abord une serveuse franco-suisse, elle s'appelle Sian, 24 ans. Elle est originaire de Sète, dans l'Hérault. Et puis le DJ de la soirée, Matteo, 23 ans, originaire d'Angers. Enfin, le plus âgé est un Vosgien, Giovanni, 39 ans, père de deux enfants de 3 et 5 ans. Il habitait en Suisse depuis 3 ans. Lors de cet incendie, le Quai d'Orsay précise que 23 Français ont été blessés et que 6 d'entre eux sont sortis de l'hôpital.
Amine Lafcha en direct de Crans-Montana ce matin pour RMC. Dans cette affaire, une enquête est en cours. Les deux gérants français du bar sont visés par une instruction pénale pour homicide, lésion corporelle et incendie par négligence. Nicolas Maduro face à la justice américaine. Deux jours après son enlèvement spectaculaire par les forces spéciales américaines, le président vénézuélien déchu doit comparaître à la mi-journée face au juge de New York pour narcoterrorisme. Les États-Unis qui sont ce matin aux commandes du Venezuela, dit Donald Trump dans une prise de parole. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC aux États-Unis. Après le Venezuela, le président américain semble donc avoir d'autres ambitions. Il multiplie les menaces.
Oui, dans son avion, alors qu'il rentrait à Washington, Donald Trump s'est montré très offensif contre l'Iran. D'abord qu'il menace de bombarder si la répression se poursuit contre les manifestants. L'Iran qui, comme le Venezuela, est aussi une grande puissance pétrolière. Il menace Cuba qui pourrait s'effondrer, dit Trump. Et puis surtout, il parle à nouveau du Groenland. Les États-Unis en ont besoin, voilà ce que dit Donald Trump, besoin pour leur sécurité. Ça fait plusieurs jours que Donald Trump revient à la charge et menace d'annexer le Groenland. Alors on verra jusqu'où il est prêt à aller, mais l'attaque contre le Venezuela a clairement marqué un tournant. Au-delà de la capture de Maduro, cette opération spectaculaire, c'est aussi une démonstration de force, un message envoyé par Donald Trump, une façon de montrer qu'il est inarrêtable et qu'il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin.
On apprend ce matin la mort d'un septuagénaire dans l'incendie de son box hospitalier aux urgences d'hier dans le Var près de Toulon. 32 personnes ont été évacuées, 10 personnes ont été légèrement blessées. Une fuite d'oxygène serait à l'origine de l'incendie selon les premiers éléments de l'enquête.
Et puis grève chez les médecins libéraux à partir d'aujourd'hui.
Mouvement inédit de la profession pour 10 jours afin de dénoncer plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale. Autre colère, celle des agriculteurs. Ils menacent de reprendre la mobilisation après une trêve relative, le temps des fêtes. La coordination rurale appelle à manifester jeudi à Paris. C'est ce que souhaite empêcher le gouvernement. Il reçoit les syndicats du secteur aujourd'hui et demain. Occasion pour le Premier ministre de préciser ses intentions après une lettre qui leur était adressée hier dans la presse, Romain Cluzel.
Et Sébastien Lecornu multiplie les promesses dans ce courrier aux agriculteurs. D'abord, sur la politique agricole commune, en pleine négociation en ce moment à Bruxelles, le Premier ministre assure que le montant pour la France ne baissera pas. L'exécutif souhaite aussi lutter contre la concurrence déloyale avec un décret qui doit être publié demain pour suspendre l'importation de produits contenant des substances interdites en Europe. Cela concerne entre autres des avocats, pommes de terre, melons ou agrumes venus par exemple d'Amérique du Sud. Mais cette interdiction, elle doit obtenir un feu vert de la Commission européenne dans les prochains jours. Avec cette lettre et les rendez-vous avec des syndicats cet après-midi, Sébastien Lecornu tente à nouveau de rassurer les agriculteurs toujours mobilisés, alors que l'accord avec le Mercosur pourrait être signé par l'UE dans une semaine.
Et puis le PSG qui tient la cadence, vainqueur du derby parisien 2-1 hier soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1 face au PFC. Le PSG est à un point du leader Lens, sacré champion d'automne.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h09, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Il y a des changements sur nos factures d'électricité.
Oui, effectivement, et c'est difficile de s'y retrouver. Alors, le dernier changement en date, c'est celui qui a été annoncé ce week-end, par le gouvernement, la diminution d'une des nombreuses taxes qui constituent, quand même, rappelons-le, 30% de notre facture, c'est les taxes. Là, c'est la contribution tarifaire d'approvisionnement, la CTA, 540 millions d'euros rendus aux Français. L'avantage, c'est que ça ne plombe pas les finances publiques, puisque c'est de l'argent qui était destiné à la caisse des retraités du gaz et de l'électricité, caisse qui est excédentaire. Donc finalement, c'est une façon de transférer de l'argent des retraités vers les clients des...
Pour une fois.
Oui, effectivement, voilà. Et donc, attendez, vous emballez pas, parce que ça correspond quand même à 10 à 12 euros sur la facture annuelle. ah oui, pour les ménages.
10 euros par an,
ouais,
pour
ça
un
fait
ménage.
1 euro oui. par mois à peu près. Alors on dit que c'est 200 euros pour certaines PME, mais quand vous êtes un boulanger qui a 20 à 30 000 euros de facture d'électricité par an, c'est pareil, ça vous change pas la vie.
Le deuxième changement va provoquer une augmentation à l'inverse de notre facture. Alors là, c'est là qu'on a du mal à suivre.
Bah, en fait, la réalité, c'est même que le premier changement qui a été annoncé, la petite baisse, est sans doute destiné à faire avaler la pilule de ce deuxième changement qui, lui, correspond au fait que les entreprises de l'énergie doivent, depuis le 1er janvier, aider à financer 27% d'économies d'énergie en plus par rapport à ce qu'elles finançaient l'année dernière. Alors c'est par l'intermédiaire d'un mécanisme un peu compliqué qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Bref, financer les économies d'énergie, ça va coûter plus cher à nos fournisseurs qui vont donc répercuter ça sur notre facture. Et là, UFC Que Choisir nous dit que ça fera à peu près 50 euros de plus sur la facture annuelle. Okay.
Donc
si
on
vous
avait
faites
gagné,
le bilan, pour le moment, on est à moins 40.
Exactement. Voilà. Alors, il y a un troisième changement aussi pour les tarifs d'électricité. C'est la fin de l'obligation pour EDF de vendre du nucléaire pas cher à ses clients. Et ça, ça crée plus d'incertitudes.
Oui, parce que, alors, jusqu'au 31 décembre, il y avait un mécanisme, désolé pour tous ces mécanismes compliqués, qui s'appelait l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. En gros, ça permettait aux concurrents d'EDF d'acheter une partie de l'électricité nucléaire d'EDF pas cher. Pourquoi ça avait été fait? Parce que quand on avait voulu ouvrir le marché à la concurrence, on s'était dit, bah oui, mais il y a plein de fournisseurs qui produisent pas d'électricité. Donc pour que les vendeurs, les fournisseurs soient dans des conditions identiques, on va leur permettre d'acheter pas cher l'électricité nucléaire à EDF. Et ça, c'est terminé. Ils doivent acheter leur électricité sur le marché.
Au prix du marché, donc.
Sur le marché, au prix du marché. Oui, mais la bonne nouvelle, Apolline, c'est que le prix de marché, aujourd'hui, il est bas. L'électricité, elle est pas chère sur les marchés et ça devrait rester pas cher au cours des prochains mois. Et c'est même avantageux par rapport aux tarifs réglementés. Si vous avez des prix qui dépendent du marché, vous êtes à 8 à 10% moins cher aujourd'hui que le tarif réglementé. Et ça, ça fait facilement.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça fait facilement plus d'une centaine d'euros sur l'année.
Allez, on redevient
comme économie.
Positif.
Et donc, je vous livre ce qui va être une des grandes règles philosophiques dès le 5 janvier pour l'année. Rappelez-vous toujours que pour faire des économies, il faut plus miser sur la concurrence que sur la fiscalité. La concurrence est votre amie, la fiscalité n'est pas votre amie.
Merci Emmanuel Lechypre. À 8h12, on se retrouve dans un instant avec Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, l'invité du face-à-face, ça sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. J'ose pas lui demander ce que vous venez de dire. La fiscalité n'est pas votre ami, la concurrence est votre ami. J'ai retenu Manu. Et puis juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup de retour avec ses imitations. Ce sera à 7h, à 8h50 bien sûr, sur RMC. On se retrouve tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est l'heure de retrouver Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline et bonne année Apolline.
Bonne année. On peut se dire pendant un
Oui, mais là c'est aussi pour les auditeurs de 8h20. Gros bisous, bonne année. Très bonne année 1939.
Ouais.
C'est la guerre mondiale qui commence. Alors ça pète de partout là. Ukraine, Venezuela, Iran, Groenland, bref. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2026. La santé, la joie, la prospérité, un bunker, des nouilles, du PQ, du sucre. C'est mes bons vœux. C'est les vœux, voilà. Alors moi, j'ai reçu plein de bons vœux. J'ai reçu les vœux de Darty, comme chaque année. Alors d'habitude, ils m'écrivent, cher client, Darty vous souhaite une bonne année. Là, ils ont mis, Darty vous souhaite bon courage. Et vous annonce moins 30% sur les systèmes d'alerte anti-aérien. Bref, c'est... vous avez fait vos vœux? Alors, on connaît la technique pour les vœux. On commence le soir du réveil. Réveillons avec les gens très importants, c'est-à-dire à minuit, la personne qu'on essaye de pécho, à minuit 10, la famille et les amis, et à 3h du matin, les ex, on est là, bonne année, je t'aime encore, on a tellement de belles choses à dire. Et puis le reste de la semaine, c'est les collègues, les gens qu'on aime bien, et le reste du mois, c'est les gens qu'on croise. Voilà. Si vous recevez des vœux le 19 janvier, c'est que vous ne comptez pas vraiment dans la vie de cette personne. Est-ce que vous aussi, ça vous l'a fait, vous avez reçu les vœux SMS de quelqu'un qui vous appelle par votre prénom et vous savez pas qui c'est?
Oui.
Moi j'ai eu 06 41 22 35 qui m'a écrit. Il faut me dire qui tu es. Il m'a mis bonne année Arnaud, merci pour tous ces bons moments, j'ai hâte qu'on en passe de nouveau. Je ne sais pas qui tu es. Signe tes SMS. En plus, le dernier SMS que j'ai reçu de ce numéro, c'était les vœux en 2024. Je ne comprends pas quoi. Allez, l'actu,
2025,
il m'a rien dit. Il y a un problème avec ce numéro. L'actu, c'est le Venezuela évidemment. Alors là, quand il déclenche les feux d'artifice au Nouvel An au Venezuela, Donald Trump, il rigole pas. il passe la seconde couche. Donc il a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme, apportant ainsi la liberté, la paix et la joie à des millions de barils de pétrole. Et c'est beau, j'ai envie de dire, Apolline.
Donald Trump qui a justifié cette attaque par la lutte contre le trafic de drogue.
Voilà, les Américains, quand ils lancent une opération anti-drogue, c'est pas comme chez nous. Ils rigolent pas, parce que nous, on galère à priver un petit chauffeur de la DZ Mafia de son portable en prison. Les Américains, ils enlèvent un président. Voilà. Ouais. En 14 minutes d'opération, c'est réglé. À minuit, Nicolas Maduro va se coucher en pyjama de Che Guevara. Il est là. Et à minuit et demi, il a 30 soldats d'élite qu'il réveille en déboulant dans sa chambre. Freeze, motherfucker! Go, go, go! Moi, mon réveil, c'est des oiseaux dans une forêt.
Ah oui.
Je vis déjà pas bien. Un régiment de Navy Seals qui te met un gun dans la narine en hurlant. Tu te dis pas, oh, encore 5 minutes et je rêve. Maduro, ça lui a fait le même effet qu'Apolline quand ses 4 gosses débarquent dans la chambre le samedi matin en faisant, maman! Au pique-nique, c'est le foot, c'est mon galette flûte. 7h du matin, c'est Donald Trump qui vous envoie ou quoi? Et alors les États-Unis ont expliqué que désormais ils géreraient le pays et ses réserves de pétrole. Là, le braquage est total. C'est la patronne du Louvre, je pense, qui est en charge de la sécurité au Venezuela. Alors de nombreux chefs d'État ont réagi à ce coup de force américain au Venezuela. Emmanuel Macron n'a pas eu peur de se révolter contre ce non-respect des conventions internationales. Il a dit:
bravo Donald, bien joué, ne me tape pas.
Et côté opposition, Jordan Bardella aussi a sèchement recadré Donald Trump.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Alors je regarde. J'ai regardé les chaînes info tout le week-end pour suivre cette actualité internationale. J'ai regardé LCI, ils étaient un peu largués, hein. Merci de nous rejoindre sur LCI après ce reportage passionnant sur la guerre en Ukraine. Le général Trinquant est avec nous, avec le colonel Reyel, le capitaine Igloo, le général Doplic, le capitaine abandonné, pour parler de la situation en Ukraine. Et excusez-moi, une alerte info. Donald Trump aurait effectué un bombardement sans doute en Ukraine. Hein? Ah non. C'est au vuvuzela, me dit-on. Donald Trump a bombardé la capitale, Maracas. Je ne connais pas ce pays. Général Trinquant, c'est loin par rapport à l'Ukraine?
Oh oui, je crois. Je suis allé une fois au club Lukea à Cancun, dans le secteur, je pense. Mais alors, la bouffe était dégueulasse. J'ai chopé la tourista, les toilettes du bungalow, c'était Mariupol.
Merci, général. On comprend mieux avec cette référence à l'Ukraine. Notre envoyé spécial est à moins de 10 000 kilomètres de cette capitale, hein, Ravanas, je crois, qui est... Donc elle est à Kiev, en Ukraine. Pauline, que pense-t-on de la situation là-bas au Gorgonzola?
Eh bien, écoutez, Darius, rien.
Oh, c'est la galère, là. On va devoir aller chercher un spécialiste sud-américain, Florent Pagny, je ne sais pas, ou le mec de la pub d'El Paso, un Brésilien du Bois de Boulogne. Courage, les gars. En tout cas, ça a été... T'as vu le gros qui a des machettes là. En tout cas, ça a été vite vu cette opération. En 10 minutes, Caracas était démolie, puis Caracas avait un remplaçant pour la diriger. Donald Trump, c'était Caracas répare, Caracas remplace.
Mon client, il a reçu un impact de la taille de 32 missiles solaires dans son pare-brise. On lui a injecté de la résine spéciale dans sa grosse moustache de dictateur. Et maintenant, on va exploiter son pétrole pour une somme inférieure à une pièce de 2 euros.
Caracas répare, Caracas remplace, c'est bon, ça promet. Allez, à demain.
Quelle rentrée 2026 avec Arnaud Demange. Dans un instant, la porte-parole du gouvernement. Mais d'abord, Florian qui est avec nous et qui nous appelle de Pau. Bonjour Florian.
Bonjour.
Comment ça va Florian?
Bonjour.
Vous êtes infirmier à domicile. Bonne année. Vous êtes sur la route là, attention, non?
Bonne année. Ouais, non, je me suis garé juste pour, en attendant d'aller chez un autre patient, pour être au calme quand même.
Oui, pour être au calme. Et il fait froid, non?
Et moins 7 ce matin.
Moins 7 à Pau. Vous avez entendu le docteur Marty sur les médecins qui font grève. Vous assurez aujourd'hui les autres soignants, je dirais?
Eh oui, on assure comme tout le temps, on va dire, que ce soit... nous, c'est 365 jours par an. Et donc, moi, je peux comprendre et je comprends le mécontentement des médecins par rapport à leur situation et tout ce qui leur est demandé par la sécurité sociale. Mais c'est un peu toujours la même histoire, en fait. Hein. Donc, eux, ils ferment les cabinets, ils disent aux patients que s'ils ont des soucis, ils appellent le 15. Et puis, nous, on se retrouve quand même dans des situations un petit peu délicates.
Vous redoutez la journée, là?
La journée, là, aujourd'hui, je pense pas, enfin, sauf si un patient a moi un souci, hein, il m'est arrivé des petits problèmes, admettons, mais le jour de Noël et le lendemain de Noël, où ça a été compliqué. Et voilà, et puis nous, au final, on parle rarement de nous, on a des syndicats qui ne nous proposent jamais à proprement parler.
Vous l'auriez fait la grève sinon, là?
Ben, alors moi, une grève que j'aimerais bien faire, moi je veux pas abandonner nos patients qu'on a au quotidien, puisque de toute façon on est obligé d'assurer les soins chez eux, mais au niveau national, les infirmiers, ouais, ça serait bien qu'on arrive à se mettre d'accord et par exemple à refuser ben, tous les nouveaux soins aussi pour mettre ben, un peu le système de santé.
Pour mettre la pression aussi sur le gouvernement. Merci, merci Florian d'avoir appelé le 32-16 pour témoigner. Florian qui était en plein dans sa tournée infirmier libéral à Pau. Il est 8h24. À tout de suite pour le face-à-face. Mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonne année à tous et bonne année Maud Bréjon.
Bonne année.
Bonjour à vous, vous êtes porte-parole du gouvernement. Toujours pas de budget, une crise agricole qui n'est pas apaisée, des médecins en grève et des Français qui pensent que 2026 ne sera sans doute pas meilleur que 2025. Bonne année quand même.
Bonne année à vous, Apolline.
On va évidemment analyser tous ces points, mais je voudrais commencer par évoquer la mémoire des victimes françaises de Crans-Montana, ce drame. 9 victimes françaises donc confirmées ce matin. Quelles sont les informations dont vous disposez à la fois sur ces victimes qui ont donc désormais toutes été identifiées, mais aussi sur les blessés?
D'abord, je voudrais évidemment commencer à m'associer à la tristesse et l'émotion des proches, de leurs familles, de leurs amis. Ça nous a tous saisis. Je pense que c'est le cas de l'ensemble des Français qui nous écoutent ce matin. Ça a été évidemment le cas de l'ensemble du gouvernement. Et la France s'est immédiatement mobilisée. Vous savez que 18 victimes ont été prises en charge sur le sol français, dans les hôpitaux français. Et donc, nous sommes à leur côté, nous resterons à leur côté. Vous savez aussi qu'il y a un hommage qui sera rendu en Suisse le 9 janvier, vendredi prochain, jour de deuil national en Suisse. Et donc, bien sûr, le gouvernement sera présent et sera représenté.
Sera représenté,
bien sûr.
Vous savez qui ira ?
Non, nous aurons l'occasion de le dire dans les heures ou dans les jours à venir. Mais c'est
mais le gouvernement français
bien normal.
S'associera.
Le gouvernement français s'associera. Le gouvernement français sera représenté au bon niveau parce que encore une fois, c'est un drame abominable, voilà, qui a coûté la vie à 9 de nos compatriotes et qui a fait de nombreux blessés.
Les blessés, il y en a un certain nombre qui sont pris en charge dans les hôpitaux
18.
Français.
Oui.
On en est où?
Écoutez, leur état est évidemment suivi de près. Je suis pas en mesure de vous donner le détail pour chacun d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes soignantes sont pleinement mobilisées et j'en profite d'ailleurs pour les remercier ce matin.
Alors, il y a eu évidemment le drame, il y a eu l'attente, il y a eu l'angoisse des familles. Je voudrais que vous écoutiez les mots de ce père, le père de Gaëtan. Gaëtan a été terriblement blessé. Il s'appelle Jean-Michel Gilbert. Il a témoigné ce matin sur BFM TV. Et voilà ce qu'il dit de ce moment d'attente et aussi du sentiment d'avoir été très, très seul.
Personne. On a fait tous les hôpitaux un par un au téléphone jusqu'à ce que par chance on tombe sur lui. Le CHU de Lausanne nous a dit votre fils va être transféré sur Paris de la nuit du vendredi au samedi. Vous inquiétez pas, on peut pas vous dire quel hôpital parce que c'est les autorités françaises qui ont décidé où on va dispatcher ce transfert. On a quelqu'un sur Paris qui a fait le tour des hôpitaux et qui a retrouvé notre enfant à 10h du matin dans quel hôpital il était.
Ils ont cherché eux-mêmes et d'ailleurs pendant les premiers jours, le gouvernement français a même évoqué l'idée que peut-être leur fils était décédé parce qu'ils ne le trouvaient pas. Ils ont vraiment le sentiment à ce moment-là d'avoir dû faire le boulot tout seul. Est-ce que vous entendez ça?
Oui, je l'entends. Alors je connais pas les détails de cette situation, mais ce qui s'est passé tel qu'ils le décrivent et tel que je le découvre ce matin est évidemment anormal. Évidemment anormal. Je me mets à la place de ce papa qui a cherché son fils, qu'il a peut-être cru décédé pendant un instant. On imagine tous quand on est parent ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça a été le cas. Je ne remets aucunement en doute sa parole et je le dis comme je le pense. C'est pas normal.
Son fils Gaëtan est hospitalisé à Paris et il est dans le coma. Il y a aussi la question de la sécurité. Le personnel des bars, des boîtes de nuit se pose la question aujourd'hui en France des normes de sécurité qui sont infiniment plus strictes et en réalité, disent-ils, tout à fait respectées. Mais est-ce qu'il faut davantage de contrôle? Est-ce qu'il faut officiellement interdire les bougies incandescentes? Certains disent on ne les utilise plus depuis cette nuit-là.
La sécurité incendie en France est extrêmement encadré et extrêmement contrôlé. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que Laurent Nunez a demandé à l'ensemble des préfets vendredi dernier, via un télégramme, de s'assurer que ces exigences et que l'effectivité de ces contrôles, que la périodicité de ces contrôles qui doivent être faits régulièrement par les mairies et par l'État sont bien réalisés. Donc il y a une vigilance particulière qui est celle de chaque instant et ce depuis des années parce qu'encore une fois on a une réglementation, on a une législation qui est de très haut niveau mais qui a été rappelée eu égard au drame qui s'est produit. Donc l'État est pleinement mobilisé, les collectivités territoriales, les mairies le sont également.
Maud Bréjon, vous le dites donc... Vendredi, le gouvernement sera présent à cet hommage.
Oui, le gouvernement sera présent. Je crois que c'est en fait attendu, c'est normal. Encore une fois, il y a des victimes, il y a des blessés. Et donc, voilà, c'est normal que le gouvernement soit présent, soit représenté en Suisse pour ce qui est, je le rappelle, un jour pour eux de deuil national.
On va revenir dans un instant sur le budget, toujours pas de budget, et on se demande d'ailleurs pourquoi ça passerait cette fois-ci alors que ça passait pas en décembre, mais un mot aussi sur le Venezuela, et notamment sur les réactions en France, les réactions politiques. Emmanuel Macron est visé par Jean-Luc Mélenchon, qui dit que la prise de position d'Emmanuel Macron, je cite officiellement, n'est pas la voie de la France, il nous fait honte, il abandonne le droit international, jour sombre pour notre pays. Dit Jean-Luc Mélenchon. Dominique de Villepin qui parle à propos d'Emmanuel Macron d'une réaction aveugle. Olivier Faure lui-même qui dit la déclaration du président de la République n'est pas à la hauteur de la voix de la France, la voix que la France porte dans le monde et des valeurs qu'elle doit continuer à défendre.
Alors d'abord, je voudrais rappeler ce qui a été dit par le président de la République et par le Quai d'Orsay, par la voix de Jean-Noël Barrot. Nous avons dit trois choses. Premièrement, il y a une responsabilité implacable de Monsieur Maduro dans ce qui s'est passé. Et non, nous n'allons pas pleurer le départ d'un dictateur qui a confisqué la liberté à son peuple et qui a volé les élections. Deuxièmement, bien sûr que ça contrevient au droit international. Nous n'avons jamais dit le contraire. Et troisièmement, il faut maintenant permettre au Venezuela de se projeter dans l'après-Maduro avec une transition qui doit être pacifique et qui doit être démocratique. Ça commence par la libération des prisonniers politiques et ça doit ensuite se traduire par une prise en compte réelle des élections de 2024. J'en viens ensuite aux réactions politiques.
Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon, à Dominique
Villepin? Et notamment à monsieur Mélenchon. Je vais vous dire, j'aurais aimé que monsieur Mélenchon organise la même manifestation de soutien au peuple ukrainien lorsque l'Ukraine a été envahie par Poutine. Et j'aurais aimé que madame Le Pen rappelle avec la même vigueur l'importance du droit international lorsque ce même Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Il y a de toute évidence de leur part un deux poids deux mesures. Et pour revenir sur monsieur Mélenchon, quand on organise une manifestation, comme ça a été le cas,
à place de la
pour demander le retour dans son pays d'un dictateur,
il a demandé la libération et le retour immédiat de Nicolas Maduro.
Quand on sait ce qu'a fait subir Nicolas Maduro au Venezuela, ça interroge quant à son propre rapport à la démocratie.
Vous vous interrogez sur le rapport à la démocratie
quand on demande la libération immédiate et le retour dans son pays d'un dictateur qui, encore une fois, a confisqué la liberté de son peuple et lui a volé les élections, oui, ça interroge dans un rapport au moins trouble à la démocratie de sa part.
Est-ce que vous estimez, est-ce que vous allez jusqu'à dire que Jean-Luc Mélenchon...
Je rappelle par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même dit que le régime de M. Maduro était pour lui, je cite, « une inspiration ».
Je vous sens...
Une inspiration, oui, ça me met en colère. Bien sûr que ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'on parle là d'un dictateur qui a fait subir des choses absolument terribles à son peuple. Et donc, se porter comme grand défenseur de Nicolas Maduro, organisé sur la place de la République, quand on sait la symbolique de cette place de la République, un rassemblement pour demander son soutien immédiat et son retour dans son pays, quand on voit ce qu'est devenu le Venezuela depuis plusieurs années. Et après que M. Mélenchon ait lui-même dit que Nicolas Maduro était une source d'inspiration, ça a de quoi nous mettre en colère, Apolline de Malherbe.
Maud Bréjon, vous irez juste après cette interview à Beauvau pour le traditionnel, chaque année ça commence pareil, traditionnel petit déjeuner au ministère de l'Intérieur, avant de vous rendre tous ensemble, à pied, de l'autre côté de la rue,
pour le conseil
du côté de l'Élysée, pour le premier conseil des ministres. Mais avec quel projet? C'est-à-dire qu'on se dit, vous avez quitté décembre sans budget, vous commencez l'année sans budget et sans réelle perspective. Quand on demande aux Français, et c'est ce que nos partenaires des Labs ont fait, s'ils estiment que 2026 sera meilleur que 2025, ils répondent non.
D'abord, moi, je comprends les Français parce qu'on passe, on a passé 18 mois de politique nationale extrêmement difficile. Ma conviction, c'est que à l'heure où le monde avance à 1000 à l'heure, on le voit encore avec ce qui se passe en Amérique latine, nous ne pouvons pas nous permettre d'être bloqués. Et donc nous avons, je dirais à minima, trois responsabilités. La première, c'est de faire atterrir le budget. Il est temps de passer à autre chose. Et donc c'est ce à quoi on s'attellera dans les prochaines semaines. Il faut un budget en janvier. Il y aura un budget en janvier. La deuxième urgence, vous savez, c'est celle des agriculteurs qui attendent beaucoup de nous, qui souffrent, qui sont face à des difficultés extrêmement importantes. Et le Premier ministre recevra les organisations agricoles cet après-midi. Et la troisième, c'est les priorités du quotidien des Français. Le gouvernement n'est pas cantonné au budget. Et j'ai eu l'occasion de le dire chez certains de vos confrères. Le premier trimestre sera porté sur le régalien. Le régalien sera la priorité des premiers mois de l'année, une fois passé le budget.
Quand vous dites le régalien, c'est quoi?
Je pense.
C'est l'armée, projet. C'est la sécurité,
c'est l'ensemble.
La justice,
c'est l'augmentation du budget de l'armée avec l'actualisation de la loi de programmation militaire. C'est le renforcement des moyens de la police municipale. Vous savez qu'un projet de loi va être examiné rapidement au Parlement. C'est le projet de loi de justice sur lequel travaille Gérald Darmanin, de réforme de la justice pénale pour avoir davantage de simplicité et davantage de fermeté dans l'organisation de la justice pénale. Ça, c'est des éléments extrêmement concrets
sur lesquels
les Français nous attendent.
Les questions d'insécurité en ce début d'année sont, aux yeux des Français, à nouveau la première priorité avant le pouvoir d'achat.
Et c'est pour ça qu'on s'y attelle. C'est pour ça qu'on s'y attelle, encore une fois, avec ce paquet régalien qui comprend à la fois l'armée, qui comprend à la fois l'intérieur, qui comprend à la fois la justice, avec un certain nombre de projets de loi, avec le déploiement de lois qui ont déjà été votées. Je pense à la loi narcotrafic, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur vos antennes, et à juste titre. Elle a été votée il y a un an, il faut maintenant continuer à la déployer. Et puis il y a les moyens qui sont prévus dans le budget. 1600 postes supplémentaires pour la justice.
Raison de plus à vos yeux.
1400 pour l'intérieur, raison de plus pour le voter.
Sur cette question de l'insécurité, ce matin sur RMC, on a consacré de nombreux reportages à ces lieux désormais pour femmes, parce que les femmes disent avoir peur dans les transports. Il y a désormais des applications pour pouvoir prendre un taxi ou un Uber uniquement femmes, être sûr d'être conduit par une femme. Il y a désormais des vacances pour femmes, il y a désormais même des clubs de sport pour femmes. C'est bien ou c'est inquiétant?
C'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça revient à dire qu'au fond, la seule façon qu'il y aurait de protéger les femmes, c'est de les faire vivre en parallèle des hommes. Ça ne peut pas être la solution. Ça, c'est une résignation.
C'est
une résignation, c'est une capitulation face aux agressions sexistes et sexuelles que de nombreuses femmes ont vécues et que de nombreuses femmes vivent encore. Donc ce n'est aucunement la solution.
Donc la solution, c'est quoi?
La solution,
c'est de se retrouver dans des salles de sport séparées.
Non, je leur dis à elles que je les comprends. Je ne blâme aucunement les femmes qui ressentent ce besoin-là, qu'on soit extrêmement clair.
Mais
ça nous est arrivé à toutes d'avoir peur à certains moments dans les transports, dans
la
rue. Ça m'est arrivé à moi, ça vous est probablement arrivé à vous, c'est arrivé à beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Pour autant, en tant que responsable politique, cette solution-là ne peut pas en être une. Notre responsabilité, c'est de continuer à déployer des moyens de sécurisation nécessaires dans les transports, des caméras de vidéoprotection, des moyens pour mieux les accompagner, mieux former les policiers quand elles vont porter plainte, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, mieux permettre à la justice de répondre plus rapidement. Voilà, c'est sur ça qu'on doit agir.
L'insécurité, le régalien, dites-vous, et puis la question du budget. Quel deadline vous dites? Il y aura
un budget en janvier.
Comment vous faites?
Il y aura un budget en janvier.
Pourquoi ça passe là alors que ça passait pas en décembre?
Parce que la France a besoin d'un budget. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tenir avec une loi spéciale. On a parlé déjà en décembre dernier. Une loi spéciale, c'est une rustine. c'est ce qui vous permet de continuer quelques mètres supplémentaires.
Mais ça veut dire
quelques
quand vous dites,
dizaines de
quand
mètres
vous dites qu'il
supplémentaires.
Y aura un budget, ça veut dire aussi que si ça passe pas par le vote, ben vous ferez en sorte
la
que ça passe
étape,
tout de même.
La première étape, c'est de s'accorder sur la question de fond. Avant de parler des outils de procédure qui permettent de faire passer ce budget, il y en a. Et il y en a dans la Constitution.
Et vous ferez usage de
il y
tout
en a,
ce que la Constitution
il y en
vous
a dans
propose.
La Constitution, mais aujourd'hui...
Vous ne vous interdirez rien,
la seule,
pris le 49-3.
Aujourd'hui, la seule question à laquelle nous demandons aux forces politiques de répondre, c'est ce qu'on met dans le budget de l'État.
Qu'est-ce qui bloque
et des collectivités territoriales.
Qu'est-ce qui bloque?
Notamment l'effort que demandait aux collectivités territoriales, entre ce qu'on avait proposé initialement, ce qu'a proposé le Sénat, et aujourd'hui un écart important, donc il faut qu'on arrive à faire converger les uns et les autres. Il y a la question de l'effort qu'on demande aux grandes entreprises, aux 300 grandes entreprises qui paieraient la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Vous savez qu'elle était de 8 milliards l'année dernière. On a proposé 4 milliards, l'Assemblée l'a porté à 6, le Sénat à 0. Bon, entre le tout ou rien, on doit probablement pouvoir trouver...
Le problème, c'est la droite ?
On doit probablement pouvoir trouver... Bah,
le problème, c'est la droite ?
Le Sénat a demandé à revenir à supprimer cet effort exceptionnel. Nous, on pense qu'un effort exceptionnel demandé, encore une fois, à 300 grandes entreprises, eu égard au contexte qu'on traverse, c'est légitime.
Donc là, vous vous adressez aux députés de droite,
mais
vous leur dites...
Vous savez, les députés de droite, ils ont largement contribué à faire aboutir et voter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Je sais qu'on peut compter sur eux. Par ailleurs, cette surtaxe sur d'impôt sur les sociétés, elle était portée par Michel Barnier. J'étais dans son gouvernement à hauteur de 8 milliards d'euros l'année
dernière.
Donc
ça devrait passer.
Donc on doit pouvoir.
Qu'est-ce qui bloque encore?
On doit pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas convergé dessus, mais on doit pouvoir trouver un chemin de convergence. Et puis il y a une question centrale, qui est celle du déficit. Nous disons une chose simple, nous tiendrons et nous devons tenir le cap d'un déficit inférieur à 5%.
C'est donc vous c'est dites absolument d'un côté, majeur. Il y aura un déficit,
le budget, quand
un
il est sorti,
inférieur à 5%.
Le budget quand il est sorti du Sénat était à 5,3%. C'est pas acceptable. En parallèle, les socialistes demandent 10 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire. C'est trop important. Et donc les uns et les autres doivent continuer à se parler. Amélie de Montchalin et Roland Lescure recevront d'ailleurs les chefs de file de l'ensemble des groupes hors LFI et RN cette semaine pour faire aboutir, encore une fois, ces discussions le plus rapidement possible.
Vous dites avoir confiance dans le fait qu'on trouve un moyen. Si ça n'est pas le cas, vous dites aussi il faut quoi qu'il arrive un budget avant la fin janvier. Donc si fin janvier, il n'y a pas d'issue favorable à un vote, vous passerez par le 49-3.
Je dis qu'il y a des outils dans la Constitution qui permettent de passer un budget, qu'il faudra en tout état de cause un budget pour le pays, mais qu'à l'heure où on se parle, il est... secondaire de parler des questions de procédure, parce que ça revient à contourner le problème de fond. Prenez l'exemple de Bruno Retailleau et François Hollande. Tous deux nous demandent d'utiliser le 49-3. Elisabeth Borne également. Enfin, quand ils nous disent ça, sur quel budget? Je doute que le budget imaginé, même via un 49-3 par Bruno Retailleau, soit exactement le même que celui imaginé par François Hollande. Donc vous voyez bien qu'il faut d'abord répondre à la question de fond.
Maud Bréjon, de colère, les médecins, le monde agricole. Le monde agricole, est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin que l'accord sur le Mercosur ne sera pas en l'état appliqué à la France?
Notre position est claire et constante. L'accord n'est pas acceptable en l'état. Nous voulons un accord équitable et nous voulons un accord juste. En l'état, il n'est ni équitable ni juste.
Les médecins, est-ce que vous allez leur tendre la main? Ils commencent une grève dure.
Bien sûr.
Aujourd'hui et pour 10 jours.
Bien sûr, ma collègue ministre de la Santé, Stéphanie Ris, leur a d'ailleurs adressé un courrier. Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, la loi de finances pour la sécurité sociale qui a été votée en décembre dernier, n'est pas une loi de régression. Elle prévoit une hausse de l'objectif national de dépenses.
Y aura-t-il une rencontre?
3%. Donc ce n'est pas un budget de régression sanitaire. Ce n'est pas un budget de régression sanitaire. Il s'inquiète également, par exemple, sur la question de la limitation des arrêts maladie.
Des quotas d'arrêts maladie,
bon,
pour certains.
Les arrêts maladie, entre 2019 et aujourd'hui, indemnisés par l'assurance maladie, ont augmenté de 25%. C'est une raison qui, je pense, permet à tout le monde de comprendre qu'il faut les encadrer. Mais enfin, on ne les limite pas. On pose un cadre, mais on ne les limite pas. On ne contrevient pas à la liberté médicale. Voilà. Donc, il y a un dialogue qui doit se poursuivre.
Si je vous entends, vous comprenez pas très bien pourquoi ils font grève.
Mais j'entends parce que c'est une profession qui fait face à des difficultés majeures. La première difficulté, c'est le nombre de médecins qu'on forme. Beaucoup de Français savent que il y a en France des déserts médicaux, ils le vivent au quotidien, la difficulté pour trouver un rendez-vous, la difficulté pour trouver des spécialistes dans certains endroits. Et donc, c'est à ces questions-là qu'on doit arriver à répondre ensemble.
Merci, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonne année à vous. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
7h-9h. RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Et quel bonheur de commencer l'année avec Nicolas Canteloup. Bonne année tous les jours. L'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, était mon invité ce matin. Tiens, elle est encore avec nous dans ce studio.
Oui, tout à fait. Pour une fois que j'ai l'occasion de parler d'autre chose que des problèmes de la France, du budget de l'État, du budget du PLFSS, des agriculteurs, je tenais à revenir donc sur l'international et de cette ingérence américaine au Venezuela. Et stop, laisse tomber, mode, tu es gentil, tu laisses tomber.
Ah tiens, Monsieur le Président, bonjour, vous souhaitiez intervenir.
Oui, bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, oui, bonne année. Écoutez, j'entendais Maud Bréjon parler d'ingérence américaine au Venezuela, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au président Trump, le Venezuela est donc débarrassé d'un dictateur sanguinaire, voilà, stop, tout est dit, hein, bravo Donald, comme on dit au Venezuela, comme on dit là-bas, ay Pepito, un, dos, tres, vamos a la playa, felicitaciones,
Oui, on a vu que vous l'aviez félicité tout de suite, hein, Monsieur le Président. Mais enfin, c'est quand même assez contraire au droit international.
Non, mais Apolline, mais arrêtez avec votre droit international. Hein, au point où on en est, vous avez vu l'état du monde, franchement. Hein, puis arrêtez de critiquer tout haut Donald Trump. Imaginez qu'il entende. Hein, moi, j'ai pas envie de me retrouver sur les chaînes info en flash spécial sur BFM, en breaking news, avec la CIA qui m'extirpe de l'Elysée en pyjama et sandales de piscine, tout ça parce que Trump veut juste offrir la Tour Eiffel à Mélania pour leur anniversaire de mariage, non?
Oui, je comprends. Merci, Monsieur le Président, en tout cas. On retrouve tout de suite Pascal Pro, tiens, pour son édito de rentrée.
Oui, bonjour ma chère Apolline, bonjour à tous, bonne année, surtout la santé, sauf au président Sarkozy. Fini les fêtes de Noël et du Nouvel An, ces moments où l'on se retrouve en famille à partager une grippe, une gastro-entérite.
Voilà.
Vous connaissez ça, 2026 commence à peine et on ne reconnaît plus notre monde tout fou le camp. Même notre Brigitte Bardot nationale, dont les obsèques auront lieu ce mercredi au cimetière marin de Saint-Tropez face à la Méditerranée comme pour mieux surveiller l'arrivée des phoques qu'elle aimait tant et des migrants qu'elle aimait moins. Heureusement, un homme veille sur notre Riviera, tel un phare, c'est Éric Ciotti. Oh, merci mon Pascal de me citer dans votre édito, tellement brillant chaque semaine. Oui, Brigitte Bardot nous manque, il faut le dire, hein, chère Apolline, elle qui a dédié sa vie, il faut le rappeler, à la protection des espèces en voie de disparition, hein, les phoques gris, les baleines bleues, les français blancs, hein. Mais permettez-moi quand même de vous souhaiter à tous une bonne année, sauf bien sûr à Christian Estrosi.
Oui, évidemment, merci Eric Ciotti. Tiens, reprenez Pascal.
Oui, chez nous l'insécurité de retour avec le cambriolage de la boutique du pâtissier de luxe Cédric Grollet. Le butin s'élève à plus de 20 000 euros. En effet, les cambrioleurs ont dérobé pas moins de 3 tartes aux pommes et 2 éclairs au chocolat. Seront-ils plus faciles à écouler que les bijoux du Louvre? Seul Laure Bécourt, notre désormais célèbre procureur de la République, saura nous rassurer.
Comment va-t-elle?
Alors, concernant les 2 éclairs au chocolat et les 3 tartes aux pommes, pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez que je ne peux pas révéler... Oui, bien écoutez, ça tombe bien parce qu'on s'en fout, cher Laure. Car ce qui passionne les Français, vous le savez, c'est que Georges Clooney a obtenu la nationalité française. Et oui, on continue d'encourager l'immigration avec cette naturalisation d'un étranger gauchiste, ne parlant pas français, sans travail fixe et dont la femme s'appelle, excusez-moi, je lis, Amal. La Moudine, voilà. Elle est née au Liban, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, le cinéma français est-il en danger? En tout cas, comme toujours, François Cluzet, notre célèbre François Cluzet, s'insurge.
Putain, mais on est où là? Les Amerlocs, ils viennent chez nous, nous piquer notre boulot. Est-ce que moi, Pauline, je vais aux States, hein? Jouer avec DiCaprio? Non, non, bon, on me l'a pas proposé, voilà. C'est vrai. Mais merde, la culture française, ça veut dire quelque chose, Clounet. Il a pas la culture. Il sait pas ce que c'est qu'un film populaire. Hein, tu le vois jouer Jeff Tuch, Somme frites. Hein, tu le vois faire les bronzés fonds du ski, Mr. Nespresso. Forget, tu as aucune chance, fonce. On the malentendu, ça peut marcher. Hein, non, il est pas crédible, Jean-Claude Duss du Kentucky, alors je préviens. Le cinéma français subventionné et qui fait pas d'entrée, c'est notre business à nous les Français. Merde.
Merci messieurs. Et pour analyser l'intervention américaine au Venezuela,
C'est dur ce matin, retour mastique. Compliqué ce matin, je suis fracassé. Tel que tu me vois, Olivier, allez, j'ai plus. Tu vois, Olivier, je me réveille, hein, tu vois, je me réveille juste du réveillon. Ouais. J'entends de partout Maduro, putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est le carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc le film d'action, les Américains, ils débarquent, sans avion de chasse, sans hélicoptère, et ils font pas le voyage pour rien. Tu sais, ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pâtes. Tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays sans sonner à la porte, tu vois, tranquille, ils arrivent. Ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros. Un balai brosse qui aurait couché avec un sourcil de Le Cornu. Sous les narines, il s'écroule un furet mort, le bébé gosse.
Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien.
Tranquille, gosse, comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert. Tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses. Il va faire des forages de pétrole partout, ça va perforer dans tous les sens. Tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans une fabrique de gruyère, gros. Il va te faire plus de trous que de gruyère, gros. Attention, je préviens, la bête est lâchée, elle est blanche, la bête. Il reprend ma cycle aussi.
Merci Vincent et merci Nicolas. Et demain sur RMC à 8h50. Dans un instant, les GG. Salut Alain, bonne année Alain, quel est le programme?
Bonjour à tous, on a un pays qui se retrouve en vigilance orange, neige, verglas. Oui, il peut arriver qu'il neige au mois de janvier, donc on empêche certains enfants d'aller à l'école. On dit à tout le monde, prenez vos précautions. Là encore, est-ce qu'on en fait trop? C'est 32-16 que ça se passe. On reparlera de la grève des médecins. On s'intéressera à la fin des avantages aussi pour les anciens ministres de l'Intérieur. Et Daniel Vaillant, qui n'a pas conduit depuis 26 ans, il dit, mais comment je vais faire maintenant? Franchement, de qui se moque-t-on? Allez, à tout de suite avec les GG au 32-16.